RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre podcast basket sur RMC le mardi sur rmc.fr. Émission exceptionnelle, messieurs, dames, car aujourd'hui nous sommes avec Stephen Brun, avec Fred Weiss, bonjour les gars.
Bonjour Pierrot.
Et avec Arnaud Valadon en duplex de San Antonio pour le début de la saison NBA. Salut Arnaud.
Hi guys, what's up?
T'as pas trop l'accent texan encore, là, va falloir bosser. Hein.
Hey guys, what's up? C'est mieux là, non?
C'est un peu mieux. Mais bon, il y a de la marge. En tout cas, tu es... Alors, on enregistre bien sûr un podcast, vous écoutez cela toujours. En podcast, évidemment, enfin, pas en direct.
En différé.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'entraînement des Spurs va démarrer. Donc, nous aurons plein d'infos et plein de choses vues par Arnaud Valadon, qui est donc à San Antonio en ce moment. Donc, tu as antenne ouverte, mon cher. Dès que tu veux nous interrompre, tu nous interromps.
Allez, je vais couper Pop pendant son entraînement pour Basket Time, je pense que ça va le faire.
Alors, si t'arrives à faire ça, bravo. Je te donne 5 points d'avance au quiz.
Par contre, je vais te lancer un défi. T'arrêtes l'entraînement et tu dis Pop, coach Will Steele avec le stade de Reims, il ferait pas comme ça, il ferait autrement.
Alors, c'est un spécial.
C'est bien, ça serait la première fois et la dernière fois à l'entraînement.
Début de saison NBA, donc tout simplement, vous allez me dire qui est votre favori à l'ouest, qui est votre favori à l'est, qui seront les surprises, les déceptions, qu'est-ce que vous envisagez pour cette nouvelle saison. Dans la partie historique, on se projette dans le futur, parce que l'histoire, c'est pas toujours le passé, d'accord ? C'est aussi le futur, les récompenses de la saison. Qui sera primé MVP, meilleur défenseur de l'année, rookie de l'année, c'est important pour Victor Wembanyama. Et puis le quiz, c'est très simple.
C'est
une boucle qui démarre à San Antonio et qui se finit à San Antonio, tout simplement.
Tout simplement.
Vous êtes prêts ?
Oui.
Allez, c'est parti toujours. Pour ce Basket Time spécial début de saison NBA.
Drew Holiday is a tough post player. All the guys can benefit from going inside to Drew Holiday.
Jaylen Brown rings the bell from deep.
Wow, what?
Alors, on démarre par l'Est, messieurs, dames. Qui est votre favori à l'Est ? Qui peuvent être les bonnes surprises, les mauvaises surprises ? Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? Alors, c'est ce qu'on démarre d'abord, si je vous donne trois noms, par Boston, Miami et Milwaukee pour ce qui concerne les favoris. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire à cette liste ?
Miami, pour moi, n'est pas favori.
Miami, pour toi, n'est pas favori. Très bien. Mais chaque année, ils ne sont pas favoris.
Oui.
Puis chaque année, ils sont en finale. Hein.
Oui, mais là, on parle de la saison régulière.
Oui, bien sûr.
Bah pour moi, ils sont pas favoris la saison
régulière. Ok, si tu veux. Alors, qui sont tes favoris, toi ?
Je veux pas être très original. Bucks Boston, voilà.
Waouh, sérieux ?
Je vois pas ce que je peux te dire de plus. Pour moi, ce sont deux équipes qui vont dominer la conférence Est. On va pas refaire le casting des Bucks. Damien Lillard, dont on a assez parlé. Je vais surtout parler de Malik Beasley, qui va être un énorme apport pour moi pour les Bucks. Fantastique tireur à 3 points. Quand on sait que Lillard et Yanis vont monopoliser les défenses, lui va pouvoir s'en tirer. Cameron Payne, qui est un très bon backup. Je crois que c'est un très bel ajout. Ils avaient besoin d'un meilleur backup. Cameron Payne, qui a vécu des belles séances de playoffs avec Phoenix. Donc Milwaukee, qui était déjà premier de la saison régulière l'année dernière avec 58 victoires. Moi, je les sens bien faire péter la barre des 60.
Sans Jrue Holiday.
Sans jouer l'idée, mais avec Damien Lillard. Moi, je les sens bien faire péter la barre des 60 avec Chris Middleton qui va jouer plus de 33 matchs, je l'espère. Donc, Bucks numéro 1 et Boston qui a gagné 57 matchs l'année dernière. Une petite victoire de moins que les Bucks. Avec Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Voilà,
attention, je crois qu'il y a Arnaud qui se fait déjà embrouiller à San Antonio. T'es où, Arnaud, là? On entend du brouhaha derrière toi, mon cher. Ah, ça y est, il s'est fait passer
les
menottes.
Oui, excusez-moi, il y a un peu d'activité puisque l'entraînement va démarrer. Enfin, a démarré, on va ouvrir dans 20 minutes, on est devant le centre d'entraînement.
Il y a un mec qui t'embrouille là ou quoi ?
46 000 mètres carrés.
Tu veux qu'on envoie Fred Weiss ?
Comment ?
Il y a un mec qui t'embrouille, tu veux qu'on envoie Fred Weiss ?
C'est des confrères français. C'est des confrères français
des potes, en fait,
qui sont venus pareil comme nous. Donc on salue, mais il y a beaucoup d'attroupements, il y aura beaucoup de Français. C'est ça peut-être la donne qui va changer par rapport au début d'un Tony Parker. C'est vraiment aussi les Français qui viennent suivre la NBA tant la Ligue a pris une ampleur. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Et voilà, dans 20 minutes dans ce podcast, on sera au bord du terrain d'entraînement des Spurs pour voir notamment Victor, probablement au shooting, hein, ça va être la fin de l'entraînement. Il y a match dans deux jours, on le rappelle.
Là, présentement, t'es où exactement? T'es pas encore entré dans la salle, c'est ça?
Non, on est devant, on attend. C'est ouverture pour vous faire les détails à 18h45 pour être précis. Là, on est devant ce complexe vraiment flambant neuf. Hein. C'était le petit bijou. Je veux dire que Victor Wembanyama passait du Palais des Sports Marcel Cerdan à ses 46 000 m² dédiés aux Spurs. Faut quand même se mouiller la nuque. Hein.
Bah, c'est sympa Marcel Cerdan, mais bon, c'est pas le même décorum, c'est sûr.
C'est comme quand tu passes de l'appart de Pierre à la maison de Fred.
À voilà, Limoges. À Limoges. Exactement. Alors pour le coup, je préfère rester dans mon appart.
Pourquoi? Qu'est-ce que t'en fais? T'as jamais vu ma maison et
non,
tu juges comme ça?
Par contre, je suis déjà allé à Limoges.
Oui, mais moi, j'habite pas exactement à Limoges. J'habite à côté.
Tu sais que tu peux avoir des œufs frais tous les matins avec Fred. Ouais.
C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'ils sont très bons. Il m'a ramené des œufs l'autre jour.
Une belle omelette.
Excellent. Mon cher Fred, est-ce que t'es d'accord? 60 victoires pour Milwaukee, Boston, autre favori.
Moi, j'ai pas la chance d'avoir la même boule de cristal que Stephen, donc le nom des victoires, j'aurais du mal à dire. Mais oui, clairement, les Bucks, pour moi, sont un petit peu au-dessus, effectivement, parce que j'ai l'impression que Boston, effectivement, c'est. Renforcé de façon très intéressante, mais j'ai l'impression que le banc est un peu affaibli. Donc j'ai envie de dire que ouais, voilà, la meilleure équipe, à mon sens, c'est les Bucks, parce que y a ce duo magique dont on a déjà parlé plusieurs fois, Damien Lillard, Giannis, en pick and roll, en défense, ça ne perd pas énormément, parce que derrière, ça peut défendre un petit peu. Vraiment très très belle équipe, ces Bucks.
Ok, on a vite fait le tour des favoris, t'es d'accord Arnaud?
Oui, oui, Boston, clairement, avec ses trades. Alors, Boston, parce qu'il y a évidemment ce changement, l'arrivée de Jrue Holiday, Milwaukee qui a fait venir Lillard, et certes qu'ils ont perdu Jrue, donc ça va être intéressant de voir un peu comment les mayonnaises vont prendre du côté de ces deux équipes. Après, c'est vrai qu'à l'Est, on a du mal à voir. Alors, les Knicks ont fait plutôt une bonne fin de saison intéressante, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi atteint une sorte de plafond avec Tom Thibodeau et cet ADN? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Après, on a énormément de franchises en reconstruction du côté de cette conférence S, donc c'est dur à voir même des petites outsiders. Alors, il y aura toujours des équipes pour la gratter. Miami est une équipe pour la gratter et il ne faut jamais les sous-estimer, mais franchement, le Bucks et Celtics paraissent tellement au-dessus et tellement armés dans cette conférence S, parce que quand on regarde à l'Ouest, on en reparlera tout à l'heure, c'est pas la même. Hein.
Cleveland peut-être.
Pour les mayonnaises, c'est surtout important pour les Nuggets, Stephen.
Tout à fait.
Celle-là, tu l'as raté. Quoi.
Pour les Nuggets, c'est la conférence S. C'est pour ça que j'ai pas parlé des Nuggets. Les Nuggets, mayonnaise, c'est moyen.
Nuggets mayonnaise. Les Nuggets, ça se trempe dans n'importe quoi.
Sauce barbecue.
Sauce barbecue, non, ça c'est pour les beaufs. C'est la sauce moutarde la meilleure, tu le sais.
Sauce chinoise est correcte aussi, méfie-toi.
Fred, un avis d'expert peut-être
Sur les Nuggets
ouais.
Non, pas vraiment, non.
Alors, on me dit qu'on doit te libérer pour passer les portiques de sécurité à San Antonio, Arnaud, donc on te retrouve dans 3 minutes.
Ah oui, ça rigole pas, tu sais, hein, c'est sécurité, donc on va passer les portiques. Et je vous rappelle, dès que je peux, et si possible au bord du parquet, tout simplement, à l'entraînement des Spurs, à 2 jours du match contre Dallas.
Alors, Cleveland pour la surprise, tu nous dis, Steve.
Ah non, Cleveland, c'était pas, ce serait pas une surprise, ils étaient quatrième.
Alors, disons, pour challenger les deux favoris.
Oui,
quoi.
Voilà, éventuellement, tu me parles de surprise, je veux aller sur...
Non, mais d'abord Cleveland, dis-nous un mot.
Ah, Cleveland. Écoute, Cleveland, c'est Donovan Mitchell, c'est Jarrett Allen, c'est Evan Mobley qui continue sa progression.
Qui est considéré comme beaucoup comme le futur meilleur défenseur de l'année. Hein.
Exactement, l'année dernière, c'était très bien, ils se sont crashés en play-off, Donovan Mitchell est passé un petit peu en travers des play-offs.
Surprenant ça quand même,
ouais, surprenant. Evan Mobley qui a découvert les play-offs, qui a pris les play-offs de plein fouet et qui est passé aussi au travers. Mais...
Jarrett Allen aussi qui est
ils sont tous passés au travers.
Ouais, c'est pour ça qu'ils sont passés au travers, justement.
Non, David Garland n'est pas passé au travers.
Oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité de l'équipe qui devait répondre n'a pas vraiment répondu.
Ils ont une très bonne équipe qui est plutôt bien coachée. Oui. Donc, ça, je te dis pas qu'ils vont être au même niveau que les Bucks et les Celtics. Mais si tu me dis qui va être troisième de cette conférence Est, Cleveland, c'est pas.
Et alors, qu'est-ce qu'on pense de Philadelphie? Parce qu'il y a toujours le problème Harden à régler.
Moi,
mais...
c'est dans mes flops aussi.
Alors, vas-y. vas-y, Fred.
T'as tout dit. T'as le problème de James Harden. Tu peux pas commencer une saison avec ta superstar qui est pas là. Ou tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas comment tu vas le trader, tu sais pas ce que tu vas récupérer. Quand tu dis que Maxi va être le manieur de ballon de cette équipe, alors moi j'adore hein, Maxi. Maxi, c'est un vrai bon joueur et il va encore faire une très bonne saison, mais ce sera le manieur de ballon numéro 1. Et je me dis que c'est peut-être un peu juste.
Pourquoi?
Concrètement, parce que je ne pense pas qu'il ait l'envergure encore de mener une équipe très très haut dans la conférence Est. Donc voilà, pour moi, il y a des joueurs qui sont intéressants, mais il y a une grosse majorité de cette équipe aussi. et en fin de contrat à la fin de l'année. Mm-hmm. Donc ça veut dire que pour créer du lien, créer de l'envie collective, c'est difficile.
Okay.
Donc tu as un nouveau coach qui est arrivé, Nick Nurse, lui qui est quand même réputé pour faire de belles choses. J'ai envie de dire qu'il est dans un vrai marasme quand même. Là.
Nick Nurse, il pourra soigner les gens, c'est des problèmes.
Exactement.
champion NBA avec les Raptors, Nick Nurse.
Et puis, ne négligez pas quand même le traumatisme d'Embiid qui a été très critiqué en France.
Oui. Non, mais moi, c'était mon flop. Là, je l'avais noté parce qu'il fallait préparer un petit flop. Parce que James Harden, pas là, pas fait la préparation. Là, il n'est pas là sur les derniers entraînements. Ça veut dire
il veut partir, de toute façon.
Il veut partir. Mais le problème, c'est que.
Mais c'est trop simple de dire il veut partir.
Oui, il faut une contrepartie intéressante. Voilà. Le problème, c'est que si jamais il est tradé, je ne sais pas quand, là, dans 15 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, ça veut dire que tu vas devoir réintégrer des nouveaux joueurs et tu vas devoir repartir à zéro sur la construction d'équipe. Donc ça me paraît problématique.
Alors que tu as déjà un nouveau coach. Oui. C'est-à-dire que tu recommences Exactement. Deux fois dans la même année la construction de ton équipe.
Et ça me paraît problématique. Alors Joel Embiid sera toujours Joel Embiid, un des deux meilleurs pivots de la ligue avec Nikola Jokic. Tyrese Maxey est un bon joueur. Maintenant, à voir s'il est capable d'être meneur numéro 1 et quasiment deuxième arme offensif. Il a des qualités, il a fait des gros cartons cette année. Ils ont récupéré Patrick Beverley, ils ont récupéré Kelly Oubre Jr., qui est un bon joueur, qui est à 20 points de moyenne l'année dernière. Maintenant, il va falloir rentrer. Tobias Harris est encore là. Ils ont beaucoup de joueurs, ils ont de l'expérience, Danny Green. Mais je pense que cette merde, James Harden, va mettre le foutoir.
Mais alors, est-ce qu'au final, on ne peut pas imaginer que James Harden reste parce que c'est comme ça, personne ne veut un trade.
C'est encore pire, quoi.
Jouer et que ça se passe très bien. Non, c'est impossible ça.
Ah, le mec, il a plus envie d'être là. Il veut plus jouer pour Daryl Morey. C'est-à-dire que si.
Rappelle-toi
des
Rockets.
Défaut.
Non, mais surtout, rappelle-toi quand il était aux Rockets. Est-ce que franchement, il a plus envie de jouer quand il était là-bas? Est-ce qu'il n'était pas en forme du tout? Il est arrivé complètement.
Rappelle-toi, il est arrivé, il s'est chauffé avec 12 vestes de survêtement pour montrer qu'il faisait 145 kilos, James Harden. C'est encore pire. Il vaut mieux qu'il parte. C'est encore pire.
Ah oui, bien sûr.
Il a pas envie d'être là, il joue. Ça va être catastrophique.
Ok. Et alors, toujours à l'aise, est-ce que Washington, ça peut marcher avec Poole qui remplace Bill? Washington.
Pouli, dans le jardin de Fred. Non, ça va être une. Kuzma, Poole.
Non, mais Poole, on a vu exactement ce qui se passait avec Poole sur deux matchs. Premier match, tu mets 41, l'autre, tu mets 7. C'est Poole. C'est-à-dire que tu auras des up and down. Quand il va être très fort, il va être vraiment très fort, mais il peut descendre très bas et ça, c'est pas logique.
C'est-à-dire que Poole, c'est bien en deuxième option derrière Curry, mais tous en numéro 1, ça marche pas.
Encore, ça n'a pas très bien marché.
Il a quand même des belles saisons.
Oui. Alors, c'est un garçon qui a 22 ans, qui est déjà champion NBA, qui a joué dans une très grande équipe avec des grands joueurs.
Gros boulard. Énorme boulard.
Je ne sais pas s'il a le boulard ou pas. Il a une énorme confiance en lui. Là, il arrive à Washington où il va être peut-être l'option numéro 1 avec Kyle Kuzma derrière. Il va shooter 25 fois par match. Alors, s'il y a une piécette, la cote est à 35, Jordan Poole, meilleur scoreur de la ligue. C'est pas farfelu, hein, Jordan Poole, meilleur scoreur de la ligue, parce qu'il va tous les soirs, il va arroser. Donc, il va avoir
mais
des
pour gagner des matchs, c'est pas pareil.
Ouais, Washington, pour moi,
mais en construction aussi.
Oui. J'ose espérer qu'en arrosant, de temps en temps, il voit Bilal Koulibaly un petit peu démarqué pour que le Français puisse. Parce que j'ai l'impression que Bilal Koulibaly va défendre pour lui et pour Jordan Poole. Il va devoir défendre pour deux, Bilal Koulibaly.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à l'Est?
Moi, j'ai choisi à l'Est les Nets comme surprise.
Oui, surprise.
Je sais, ça peut paraître un peu farfelu, mais moi j'aime plutôt bien leur équipe.
Pourquoi?
Je trouve qu'elle est bien équilibrée. J'adore Mikal Bridges déjà. Je trouve que c'est un joueur fantastique. Ensuite, il y a les deux Cam, Johnson et Thomas qui sont des bons joueurs. T'as Claxton qui va continuer à progresser.
Faire le pont au 1er novembre.
Qui va continuer à progresser, qui fait quand même plutôt des bonnes saisons. T'as Finney Smith qui va défendre, Royce O'Neal qui est là. Ils ont récupéré Lonnie Walker, The Fourth. Des Lakers,
donc
sympa.
Toi tu me dis qu'une équipe avec Ben Simmons
laisse-moi terminer moi je te dis Ben Simmons c'est la donnée la plus importante et si tu me demandes qui sera le MIP Ben Simmons.
Très bien, ah ouais, ok, ben Simmons, on croit encore à Ben Simmons.
Ben Simmons qui a dit qu'il serait au jeu avec l'Australie cet été.
Tant mieux pour l'Australie. Ça m'intéresse fortement.
Mais il avait très envie d'y aller, mais peut-être que oui. Je n'ai pas envie de le récupérer. Hein.
Quelle est ta surprise possible, toi, Steve?
Ma surprise, c'est les Pacers. Indiana, l'année dernière, ils ont gagné 35 matchs. Ils étaient 11e à l'Est. Ils ont un axe meneur-pivot de très haut niveau, puisque Tyrese Haliburton était All-Star la saison dernière. C'était un des meilleurs joueurs de Team USA cet été. Il fait d'Indiana une équipe un petit peu plus sexy à regarder. Bon joueur, Miles Turner, la saison dernière, fait sa meilleure saison en carrière, 18 points, 7 rebonds, 2,3 blocs. Buddy, il est toujours là, avec sa bonne réussite à 3 points. Surtout, ils ont récupéré Bruce Brown, champion NBA en titre, et pas dans un rôle anodin. avec les Nuggets. Et ils ont récupéré Obi Toppin, qui va pouvoir jouer un peu plus de minutes, qui était à New York, mais qui était barré par Julius Randle. Et je pense qu'il peut faire des choses.
Obi-Wan, tu veux dire.
Obi-Wan. Ils ont trois gamins. Bénédicte Mathurin, qui a fait une très belle saison rookie l'année dernière, qui va s'aguerrir. Ils ont Nembhard et Isaiah Jackson, qui vont être meilleurs. Donc je crois aux Pacers, avec Rick Carlisle, ça va se batailler pour un 8e place ou play-in.
Et pour tous les amoureux des New York Knicks, il y en a beaucoup en France, on espère quelque chose où il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Si on espère que Kevin Fournier joue ou qu'il soit transféré, c'est tout ce qu'on espère un peu.
Écoute, les équipes qui... Bon, il y a quand même 2-3 bons joueurs dans cette équipe. Les teams qui ne changent pas tout à l'intersaison, il ne faut pas les enterrer non plus, parce que ça peut être...
Non, mais franchement, ils ont fait une bonne fin de saison, mais effectivement, je pense que ça s'est tellement renforcé à l'Est avec les deux gros que ça paraît compliqué. Mais quand on a un joueur comme Brunson... C'est un joueur de très 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 haut niveau, donc oui, NBA, évidemment ils seront là.
En NBA il est bon, en FIBA il est un peu moins
bon. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr.
Après t'as Jalen Brunson, Julius Randle, c'est très bien. Mitchell Robinson, il faut qu'il joue une saison entière pour leur apporter des choses. Emmanuel Quickly, il va pas être loin du titre de sixième homme de l'année s'il sort du banc, parce que lui,
c'est mon choix.
Il va mettre des puntos. Non, les Knicks, ça va faire 5, 6, 7, quoi. Ouais, ouais. Voilà, par là.
Ouais. Je pense que ça peut éviter le play-in. Par
ouais, ça peut...
Nous avons reconnecté Arnaud Valadon en direct de San Antonio. Tout va bien, Arnaud ?
Tout va bien. On s'apprête à aller voir l'entraînement des Spurs. Tu sais, c'est très encadré, comme dans l'équipe de France de basket masculine, en foot. On n'a accès qu'à la fin. Mais on attendait dans une petite salle et il y avait des employés des Spurs qui étaient en train de préparer des maillots Wembanyama noirs floqués numéro 1. Ils avaient à peu près une centaine de maillots de différentes tailles. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient les signer. Non, j'ai pas encore gratté. Mais ils allaient les signer, préparer en tout cas ces maillots pour que Victor Wembanyama les signe. Il y avait d'ailleurs un ballon aussi à côté, parce que c'est des produits qu'on vend un peu plus cher que ces $120 hors taxe, un maillot Wembanyama. Vous rajoutez les taxes, ça fait $150. Vous convertissez en euros, c'est 140 euros à peu près.
Tu nous en ramènes un chacun pour Basket Time ?
Tu fais une note de frais ?
Ah, si je peux faire une autre de frais, bah écoute, pourquoi pas. Il y a le City Edition, vous savez, la NBA propose chaque année des maillots un peu originaux. Je suis pas très fan de ce qui est sorti, hein. Je sais pas si vous avez un avis
non,
là-dessus.
Mais
si vous
crois que Nike a été critiqué par rapport à ces maillots City Edition, je crois. Donc c'est pas ouf.
Non, mais fais pas ton radar, Arnaud, ramène-nous des maillots.
Fais croquer un peu quand même.
Ok, un cadeau.
On aurait tous aimé partir là-bas. Hein. T'as vu, il répond plus.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais,
il y a de l'argent, il a raccroché.
L'orange, le noir avec l'ancien logo. Ça a raccroché, ça a coupé ?
Non, ouais, c'est
ça
bon.
A coupé.
C'est
on disait, bon. On disait, fais pas ton radar, fais-nous péter un maillot pour la famille Basket Time.
On va s'arranger avec le patron, avec Pierre. On va négocier ça. Hein.
C'est Pierre, le patron.
C'est un Basket Time spécial début de saison en NBA. On passe à l'Ouest.
Thrown down by Davis from D'Angelo. By Davis, good play position by AD. LeBron going downhill all the way. Layup, left-handed score. KD lighting the lamp from deep. Unselfish Booker. Splash. Booker against Caldwell Pope, doubled. KD got it. Surgical. It's over.
Alors, à l'Ouest, donc, votre favori, les surprises possibles, les flops attendus. Est-ce que Denver est plus ou moins fort que l'an dernier, le champion en titre ? On commence par le champion en titre, Fred.
Sur le papier, ils sont un peu moins forts.
Ils sont un peu moins forts.
Oui, ils ont perdu deux joueurs qui étaient hyper importants pour eux. Et dans ce sens-là, je pense qu'ils sont un peu moins forts. Mais ils ont pas mal de jeunes qui veulent développer, qui veulent faire progresser. Donc, quand on a un maître à jouer comme Jokic et qu'on a Jamal Murray à côté, je pense que ça peut aider quand même à grandir vite. Il faut se rappeler de Brown, le petit Brown,
Christian Brown
qui a éclos aux yeux de tout le monde assez rapidement. Donc
Pierrot, voilà, je pense que c'est aussi, c'est pas qui c'est.
Non, c'est vrai, je vois pas.
Christian Brown, c'est un
rookie, un blanc bien gaillard, bien costaud.
Ouais, qui a été plutôt bon, hein, qui a apporté de l'énergie et tout ça. C'est vrai qu'on attendait peut-être pas qu'il soit aussi performant aussi rapidement. Bah, c'est un des rares joueurs à avoir gagné la NCAA et dans la foulée le titre NBA. Mm-hmm. Donc c'est quand même
un peu moins fort, mais à voir, les locomotives étant toujours là, peut-être que les joueurs de complément peuvent être aussi
performants
que l'an dernier.
Exactement, en tout cas, c'est la volonté affichée de Denver, c'est de faire sortir un petit peu des jeunes.
Ouais, ils ont perdu Jeff Green et Bruce Brown, qui étaient deux joueurs importants. Ils viennent de prolonger Zeke Nnaji pour 3 ans, c'est-à-dire qu'ils comptent dessus et lui aussi, ils veulent le propulser un petit peu, lui donner plus de minutes. Maintenant, quand vous avez Jokic qui maîtrise
et Jamal Murray,
le basket, Laisse-moi finir, Pierrot, parce que je vais m'énerver. Nikola Jokic qui maîtrise le basket et qui fait briller les gens autour de lui, donc je ne suis pas inquiet pour Denver. La vraie marge de progression, s'ils peuvent progresser, c'est Jamal Murray, qui l'année dernière, rappelez-vous, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué au basket. Il était un petit peu irrégulier sur ses matchs. Alors il a fini, il a fait des finales, des playoffs exceptionnels. Mais là, il va être là bien dès le départ. Donc c'est peut-être la marge de progression de cette équipe-là. Mais ils connaissent maintenant la routine. Alors le plus dur, c'est le back-to-back. Hein. Gagner une fois, c'est dur, mais gagner une deuxième fois de suite, c'est encore plus dur. Mais je ne suis pas inquiet parce que Jokic est tellement serein, tellement déconnecté de cette pression du basket. Que
on a vu des images voilà, de lui, le mec, il vit dans une autre planète.
Le mec qui est en entraînement, il est en train de scouter des chevaux. Voilà, il préfère scouter des chevaux comme Pierrot d'ailleurs, qui le prépare le Moscato.
Sauf que moi, je ne suis pas champion de NBA.
Peut-être pas propriétaire aussi. Non, moi, je suis pas inquiet pour Denver. Peut-être qu'ils vont être moins bons en saison régulière, ce qu'ils ont été la saison dernière.
Mais oui, le temps que les jeunes s'accordent complètement au projet, etc. Mais voilà, et puis, à la fin, ils seront là.
On a vu la progression d'Aaron Gordon depuis qu'il arrive à Denver, c'est fantastique et je pense qu'il va encore progresser. Michael Porter Jr. peut monter encore bien plus haut que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Voilà, ils ont encore.
Gordon, pour moi, c'est un exemple concret de ce que peut faire Jokic sur un joueur.
Oui,
parce que quand il était au Magic, pour moi, c'était un poulet sans tête. Concrètement, je m'y connais en poulet, tu l'as dit tout à l'heure. Un poulet sans tête, là, quand il arrive là-bas, on a l'impression qu'il comprend le basket, que c'est un génie du basket lui aussi. C'est là que tu te rends compte de l'influence d'un Jokic.
C'est quoi, Fred? Je pense que si jamais Pierrot, un jour, dans une vie parallèle, joue en NBA, je pense qu'avec Jokic dans son équipe, il a 12 points de moyenne.
Moi?
Ouais, toi. Non. Il va te mettre en valeur. Mais dans les positions valeur, que t'aimes bien. Les positions que t'aimes bien, dans le corner à 45.
Là, si je monte sur ses épaules pour dunker, peut-être. Ouais. Là, d'accord. Est-ce qu'on parle de Denver à San Antonio, Arnaud Valadon? Ah, on l'a reperdu. C'est comme ça, hein, c'est la loi du direct. C'est comme
j'ai l'impression qu'il est parti au catering.
Le plus important,
Philippe Catering.
C'est qu'il nous décrive tout à l'heure l'entraînement des Spurs en direct. Alors, l'autre équipe qu'on attend, c'est les Lakers. On est d'accord, les Lakers, c'est une excitation de folie. Là. Tout le monde dit les Lakers, ça va être très costaud cette année.
T'es plus excité par les Lakers que par les Suns, toi?
Ben oui, ce que je vais dire, moi, c'est les Suns que j'ai choisi. Comme
mais les Lakers, il y a le prestige qui va avec.
Il y a le prestige, il y a effectivement le fait
et
qu'ils soient bien
remportés. LeBron James qui peut encore gagner une bague, c'est incroyable quand même. Au bout de 20 saisons d'NBA.
Non, mais surtout, le recrutement estival a été plutôt très intéressant. Il plaît à tout le monde. Honnêtement, moi aussi, j'aime beaucoup les Lakers, mais c'est vrai que si je devais partir sur un deuxième favori, entre guillemets, je prendrais les Suns.
Mais les Suns avant les Lakers.
Ouais, je crois.
Pourquoi?
Ben, parce que quand t'as KD dans ton équipe, déjà, KD et Booker, déjà, c'est super chaud. T'as Bradley Beal, t'as de quoi défendre, t'as Okogie, bien sûr. T'as récupéré Grayson Allen. Faut pas non plus sous-estimer ce gros défenseur. T'as un mec comme Eric Gordon qui peut t'apporter des choses. Nassir Little qui avait eu beaucoup de difficultés à son début de carrière, qui revient et qui peut apporter beaucoup de choses, qui est vraiment aimé par Frank Vogel. Et pour moi, la clé de cette équipe, alors j'ai pas parlé de Bradley Beal, mais évidemment lui aussi, hein, il sera très important, mais pour moi, la clé de l'équipe, paradoxalement, c'est Nurkic.
Alors, Youssouf Nurkic, le pivot qui est bosnien, qui est capable de faire beaucoup de choses.
Alors, je pense que défensivement, ils ont besoin d'une présence à l'intérieur déjà, et il n'y a pas beaucoup de présence mis à part lui, mais c'est surtout que lui, physiquement, on ne sait jamais quelle saison il va pouvoir faire. Mm-hmm. Et c'est vrai que si à l'intérieur, ils n'ont pas Nurkic, ça va être un petit peu dur.
C'est l'interrogation, c'est Nurkic.
Pour moi, la vraie interrogation, c'est ça. Parce que
par contre, en forme, c'est un vrai bon pivot.
C'est un vrai bon pivot, rugueux, dur, solide.
Bon passeur.
Non, je pense qu'il peut vraiment s'incorporer à cette équipe. Watanabe qui arrive aussi et qui est plutôt une bonne pioche, honnêtement. Eric Gordon, quand tu vois l'équipe, ils ont fait un bon taf de recrutement.
Ils ont Drew Eubanks qui est backup pivot. C'est bien. Maintenant, trois superstars dans une équipe.
Ça marche jamais.
Il y a toujours un qui doit sacrifier.
Mais tu sais très bien que ce sera Bill.
Oui, d'accord.
Il n'y a même pas
le. Je le sais que c'est lui, mais est-ce qu'il va être capable de le faire intelligemment, de se sacrifier? Tu sais, quand toute ta vie, tu as pris 20 tirs par match et que du jour au lendemain, tu dois donner. En plus, il va jouer meneur.
Après, ouais, ce que j'allais dire. Après, il va jouer meneur et ça m'inquiète un peu.
Tu vas devoir faire des plays, annoncer des plays pour KD, annoncer des plays pour Booker. Peut-être sur 8 ou 9 attaques de suite, tu ne vas pas shooter parce que c'est la réalité. Quand tu as Devin Booker et Kevin Durant, parfois, tu ne shootes pas pendant 5 minutes 30.
Il va avoir les boules.
Bill. Donc, à voir.
Tu fais les vannes parce que tu les fais pas cette semaine. Je sais pas ce qui t'arrive.
C'est un podcast qui est enregistré le lundi soir. Je fais pas de vannes le lundi soir.
C'est
que le mardi midi.
Et je me suis douté.
Non, j'ai quelques interrogations.
Ouais. Donc, toi, ça serait peut-être pas l'équipe que tu citeras en deuxième
non.
à l'ouest.
Non.
C'est qui?
J'ai envie de dire les Warriors, Spiro.
Ah, les Warriors, bien sûr. Avec Steph, il faut toujours se méfier.
Ils ont fait all-in sur on gagne tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation d'avenir, parce que quand tu fais
normal,
venir Chris Paul...
Normal, il est à 33-34,
ouais,
Stephen.
Et puis quand tu fais venir Chris Paul, moi j'ai 43.
Non, Curry.
Curry.
Il n'a pas 35, Curry ?
Si, si, il a 35.
35, ouais. 35, donc tu ne peux pas avoir sur l'avenir, là.
Non, mais tu aurais pu faire venir quelqu'un d'un peu plus jeune. Là, tu fais venir Chris Paul, ça veut dire que tu veux gagner tout de suite. Draymond Green, qui est, ils ont fait le choix. Draymond Green, Jordan Poole, finalement, c'est Jordan Poole à qui on a dit au revoir. T'as vu qu'on vient d'apprendre que toute l'année, Steve Kerr a essayé d'organiser un dîner ou un déjeuner avec Draymond Green et Jordan Poole, et Draymond Green a refusé toute la saison de manger avec Jordan Poole.
Il est spécial lui aussi. Hein. Les deux sont un peu bizarres. Hein.
Les deux, oui. Il y en a un qui a pris une patate par contre. Donc, non, mais sinon, pour revenir sur les Warriors, je crois beaucoup en Jonathan Kuminga, qui a joué beaucoup de minutes en pré-saison, qui a été très bon. J'ai envie de croire que c'est son année.
On attend sur lui, du côté des Warriors. Ouais,
et l'année dernière, n'oubliez pas qu'en fait, ils font une saison quasiment sans Andrew Wiggins, qui joue pas, qui a des problèmes perso. Il joue pas, Andrew Wiggins, alors que la saison d'avant, il est All-Star quand ils sont champions. Il est exceptionnel. Donc, pour moi, c'est un nouveau joueur, Andrew Wiggins. Kevin Looney qui est toujours là. Klay Thompson qui ne trouve pas d'accord avec les Warriors de prolongation. Donc il va sûrement être free agent à la fin de l'année. Et quand tu es free agent à la fin de l'année, tu as envie de mettre des filoches. Donc j'attends beaucoup. Puis ils ont récupéré Dario Saric qui fera la maille en sortie de banc.
Tu peux avoir de très bons soirs, Dario Saric.
Exactement.
Très, très beau joueur.
Donc moi, ces Warriors, ils me chauffent, Pierrot. Okay. Il me chauffe avec Chris Paul en 6e.
Et donc les Lakers, toujours pas. Alors Arnaud Valadon en direct de San Antonio.
Et oui, on est à l'entraînement, je suis au bord du parquet, c'est deux terrains, une salle en fait, un hall si vous voulez, avec deux terrains, et Wembanyama est tout au fond, comme à son habitude. Ça a marqué la presse américaine, c'est dimanche soir, il est resté pendant près d'une heure et demie à refaire du shoot, tout simplement, à bosser en plus. Et là, Wembanyama, il fait des lancers francs, accompagné de Trey Jones notamment, on a Jeremy Sochan qui est à 10 mètres de nous, voilà les Spurs qui sont à la fin de leur entraînement, à deux jours de leur entrée en lice en NBA face à Dallas, et voilà, ils sont trop kill, hein. Voilà, c'est shooting à l'américaine.
Tiens, puisqu'on est dans la conférence Ouest, est-ce qu'ils ont annoncé un objectif, les Spurs, Arnaud ?
Non, pas d'objectif, mais de toute façon c'est faire mieux que l'année dernière. Vous allez me dire c'est pas difficile, mais peut-être retrouver des standards défensifs, parce que c'était une des pires défenses de la NBA l'année dernière, et il n'y a pas eu d'objectif annoncé, que ça soit play-in, play-off. Pour l'instant on attend un petit peu de voir, ça fait pas forcément partie voilà, des choses qui ont été dites. C'est progresser et voir ce que ça peut donner. En tout cas Wemby a dit que lui il voulait déjà se rapprocher le plus près possible du titre NBA, tout en étant assez réaliste sur le fait que voilà, c'est une franchise qui avait un des pires bilans l'année dernière et qu'on ne peut pas forcément passer du tout au tout. Si on compare à l'arrivée de David Robinson, qui est drafté numéro 1, ils n'avaient pas tout de suite été brillants, ils avaient encore fait une saison délicate et ensuite chopé Tim Duncan, et là ça avait été différent puisqu'ils avaient glané un titre de champion 2 ans ou 3 ans après la draft. Je crois que Duncan ça va être 97 et ils sont champions en 99.
Très bien, tu nous interromps, tu n'hésites pas s'il se passe quelque chose de significatif à l'entraînement des Spurs. C'est tranquille, il y a beaucoup de journalistes, dis-moi Arnaud.
Écoute, il n'y a pratiquement que des journalistes français, c'est vrai, pour tout vous dire.
Bon, ouais. Les Américains, ils savent qu'ils l'auront sous le nez toute l'année.
Jeremy Sochan va se présenter en conférence de presse. Et voilà, je vous rappelle dès que possible.
Très bien. À tout à l'heure, Arnaud. Donc à l'Ouest.
Quelle nationalité, Jeremy Sochan ?
Alors, je dirais polonais.
Ouais.
Bravo. Un point.
Pourquoi, c'est dans le
pour
quiz.
Le quiz, non, pas du tout. Alors, il y a beaucoup de choses encore à l'Ouest qu'on n'a pas évoquées. Les Clippers.
Les Lakers, si vous voulez peut-être.
Ah, les Lakers. Bah non, mais vous ne voulez pas en parler des Lakers. Vous ne respectez pas LeBron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as toujours été un peu réticent à dire de LeBron James.
Non, mais c'est surtout qu'on en a déjà parlé des Lakers. On l'a évoqué plusieurs fois que leur recrutement estival était plutôt intéressant. Que honnêtement, je pense qu'ils ont de vraies options. Ils vont embêter plein d'équipes. Après, voilà, pour moi, les équipes qu'on a citées avant, les Nuggets par exemple, les Suns ou les Warriors, c'est au-dessus.
C'est au-dessus, ok.
Mais c'est une belle équipe.
C'est une belle équipe bien construite.
Quand tu récupères Gabe Vincent, Torin Prince, c'est bien, c'est solide. La santé d'AD, toujours un point d'interrogation.
T'as re-signé les mecs qu'il fallait re-signer, voilà. T'as signé 2-3 mecs bien. Qui étaient hyper intéressants.
Christian Wood,
c'est un bon apport.
Alors, tu vas te mettre 20 points, tu vas en prendre 18, voilà, c'est bien.
Bon, très bien, c'est bien, sans plus, on verra.
Si, ça va faire 45 victoires, c'est
pas
bien.
Plus.
44, 45.
Ils éviteront le play-in.
Moi, je pensais qu'ils étaient plus ambitieux que ça, mais c'est pas grave. Les Clippers, est-ce que ça peut marcher un jour ?
Moi, c'est mon flop.
Ah, c'est ton flop.
C'est ton flop. Moi, c'était un de mes tops.
Ah,
moi,
c'est intéressant.
Moi, c'est mon flop parce que c'est bon. Fred. On nous a déjà fait le coup plein de fois. Oui, Kawhi est un super joueur. Oui, Paul George est un super joueur, sauf qu'il joue jamais. On ne sait pas comment ils sont vraiment. À chaque fois, on nous vend une équipe fantastique. Oui, sauf qu'à chaque fois, à force de le vendre, c'est une équipe qui commence à être vieillissante. Je suis désolé, l'effectif est vieillissant, moi ça me fait pas rêver, et je demande à voir quand même ces deux joueurs monstrueux, hein, en soi. vraiment en forme sur le terrain.
Steve.
Bah, enfin, en fait, l'année dernière, ils ont gagné 44 matchs avec une équipe buissonnière. C'est-à-dire que les mecs, ils n'étaient pas là. Ils ont réussi à gagner 44 matchs. Leonard joue 50 matchs, Paul George 56. Et je me dis, à un moment donné, avec tout ce qui se passe, avec le management qui est mis en place, avec les critiques qui sont en train de leur tomber dessus, sur les mecs, vous jouez jamais, arrêtez de vous moquer du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de conscience de Paul George, qui a eu plusieurs déclarations d'ailleurs en ce sens-là, en disant, il faut que je redevienne la bête que j'ai pu être en saison régulière. Kawhi, lui, bon, Kawhi qui est toujours stoïque, en disant, la meilleure saison de ma carrière, c'était à Toronto. Et j'avais fait du load management. Bon, Kawhi, il est dans un monde.
Il n'est pas avec nous.
Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été très performant quand même? Ça commence à dater maintenant, hein, même si on connaît le.
Je ne sais pas si c'est vraiment pas performant qu'on peut dire sur lui.
Non, il ne joue pas.
Il ne joue pas. Voilà. Quand il joue,
il est top 5 NBA.
Ben oui, sans problème.
C'est ça le problème.
C'est pour ça que je te trouve un peu dur de dire qu'il n'est pas performant. Si.
Pour moi, c'est encore un des meilleurs ailiers de la ligue.
Ouais, est-ce qu'on en est sûr? C'est ça.
Oui, en plus. La capacité qu'il a de défendre en plus.
Le peu de matchs qu'il a joué l'année dernière, c'était carnage avec des au pourcentage de réussite, mais bon, c'est une équipe, il y a tout au magasin. Quand t'as Zubac premier à l'intérieur, c'est énorme. Quand t'as Russell Westbrook, mine de rien, qui est sixième homme ou starter, ça dépend, c'est énorme. Quand t'as Terrence Mann qui est là, quand t'as Bender Covington...
Terrence Mann, est-ce que c'est pas un peu le maillon faible? Parce qu'ils veulent en faire leur meneur, c'est ça?
Ils veulent pas le transférer, Terrence Mann.
Ouais, mais
parce que s'ils avaient accepté d'envoyer Terrence Mann à Philly, James Harden serait déjà aux Clippers, donc ils comptent vraiment sur lui. Bender Covington... En fait, il y a beaucoup de joueurs,
Norman
mais
s'ils
sont en bonne santé, c'est très fort.
Mais complètement.
Il y a ceci, quoi.
Et le si, sauf que le si, il est quand même important avec des joueurs qui, je le dis, ils prennent de l'âge un petit peu et ça fait quelques temps qu'on ne les a pas vus vraiment performants sur la durée. Alors oui, ponctuellement, quand ils jouent, ils sont très bons.
Donc toi, c'est ton flop et toi, c'est ta bonne surprise et l'inverse, ton flop, toi, Steve?
Non, ce n'est pas ma bonne surprise, les Clippers, je les attends très haut. Ma bonne surprise, c'est OKC. Toi aussi, c'est OKC ou pas?
Non. Ça aurait pu parce qu'effectivement, ouais, ça peut être.
Moi, ma surprise, c'est OKC qui, l'année dernière, passe un tour de play-in avant de perdre contre les Wolves pour aller en play-off. Il y a 40 victoires. Bon, Shai Gilgeous-Alexander qui a été All-Star, qui a été First Team, une saison à plus de 30 points. Les jeunes qui vont être meilleurs, comme Josh Giddey et Jalen Williams. La première saison de Chet Holmgren qui va être un vrai concurrent à victoire pour le titre de rookie. Il y a deux Frenchies, Olivier Sarr et Ousmane Dieng, qui ont eu des minutes en pré-saison. Cette équipe, elle a 25 ans de moyenne d'âge. Elle a beaucoup de choses en magasin. Elle est très bien coachée par Marc Degnaud. Donc, moi, je les vois play-off, je les vois 8e cette année.
Je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. En plus, j'adore cette équipe et j'ai bien aimé Sarr, Chet Holmgren ensemble. Ouais. Ça peut faire des
étincelles. Et puis, il y a un petit Vassili Micić, quoi. Il y a toujours la curiosité de Vassili Micić, ok, si, voir s'il va réussir à s'imposer pour un européen.
Alors, concrètement, t'as lu ses déclarations?
Oui.
lui-même ne le tend pas super bien.
Ah bon?
Il a dit quoi?
Il y a du monde à l'arrière.
Ouais, c'est ça. En gros, il dit que ça va être dur, ça va être très vite. Enfin, voilà quoi. Donc, même lui, il faut.
Mais ok, si, c'est peut-être la franchise des 5 prochaines années.
Et alors, en revanche, celle qui, dans la progression est peut-être stoppée en plein élan, c'est Memphis, parce qu'on ne sait pas ce qui
va c'est mon flop, moi.
Advenir de... Alors, il y a Adams déjà qui s'est fait les croisés, on ne sait pas ce qui va advenir de Jamorant.
Jamorant, 25 matchs, les premiers 25 matchs, ça ne joue pas. Steven Adams, out toute la saison. On rappelle qu'ils ont pété Brandon Clark au tournoi d'Achille l'année dernière, qui n'est toujours pas de retour. L'année dernière, ils étaient deuxième. Hein. Mm-hmm. 51 victoires de la Conférence Ouest.
Après, sur le poste de meneur, c'est un peu compensé quand même.
Marcus Smart et Desmond Bane. Sauf que Fred, quand Jamorant va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Desmond Bane, Marcus Smart, qui c'est qui va accepter de dire bah je me mets rentrer? Je pense que ça va faire un problème. Parce que quand pendant 25 matchs, Desmond Bane va starter et va shooter tous les ballons, et quand Jamorant va revenir, il y a un mec qui va devoir s'asseoir sur son ego.
Et vous allez rire, mais pour moi, Dylan Brooks.
C'est une grosse perte.
Pour moi, c'est une grosse perte.
Et cette équipe qui s'est nourrie un petit peu de cette mentalité de bad boy, je pense que la mentalité va un petit peu changer parce que ça a disparu. Que Derrick Rose est arrivé en tant que mentor, et Derrick Rose, c'est pas le roi des bad boys, c'est plutôt un bon mec. Donc je pense que Memphis, ça va être le flop de la saison.
Est-ce qu'on a fait le tour? T'as donné ton flop?
Non,
il
n'a
pas
donné
sa surprise non plus.
L'équipe qui me plaît bien, moi, c'est Houston.
À Houston.
Ouais, je suis désolé.
C'est le meilleur deuxième surprise.
Ouais, okay. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant. Mais
t'as raison, mon grand.
Parce que le coach, déjà, Udoka, il est revanchard. Très bon coach, revanchard, forcément. Tu récupères Fred VanVleet.
J'espère qu'il n'y a pas un staff avec trop de femmes, par contre, pour une Udoka.
Non, apparemment, il s'est interdit d'avoir des femmes là-bas à Houston. Donc, il y a Fred VanVleet qu'ils ont récupéré. Dylan Brooks, c'est aussi hyper intéressant. Tu as drafté Amen Thompson et Cam Whitemore.
Très fort.
Tu as Jalen Green qui est là. Tu as Jock Landale, qui est un très bon joueur aussi. On a parlé de Saric, moi je pense que c'est un mec qui peut compenser un peu à la Saric. T'as Sengun, t'as Jabari Smith. Honnêtement, ils ont un vrai roster, une vraie équipe, un bon coach.
Oladipo, il en est où?
Oladipo?
Non. Inexistant? Insignifiant, je veux dire?
Il est toujours à Houston, le Ladipo ?
Ouais.
C'est sûr à 100% ?
Je crois, non ? Honnêtement,
là, je pourrais pas te répondre parce que je pense pas qu'il soit.
Là, je vais faire un petit check.
Allez, vas-y, check.
Est-ce que tu nous as envoyé la première saucisse de la saison ?
Ah, peut-être, c'est possible.
Je crois qu'il est OK ici. Si,
c'est pour ça, alors. C'est pour ça, insignifiant, du coup.
Mais il est vraiment insignifiant.
Il va pas avoir un énorme impact avec Houston.
Et en plus, ils ont le mec le plus aimé de la NBA, Boban, dans cette équipe. Donc pourquoi ne pas aimer cette équipe ? Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa.
Si on a à se concentrer sur un gars, il y a des milliers de stars en NBA, mais un petit focus sur Alperen Şengün, le Turc, qui est un petit peu le Nikola Jokic de Houston.
C'est clair.
Alors on va retourner à San Antonio, puisque c'est déjà fini les quelques minutes presse de Jeremy Sochane.
On prononce Sochane.
Ah, Sochane, ouais. Très bien. Qui a été annoncé titulaire par Pop, je crois. Hein.
Meneur de jeu.
Arnaud.
Oui, absolument. Lui qui est plutôt un ailier et plutôt que de le faire sortir du banc, eh bien, il va être notamment jouer point guard, meneur de jeu. Voilà, il s'est exprimé. Alors, on l'a interrogé parce que je ne sais pas si vous en avez parlé de cette image de l'entraînement des Dallas Mavericks où ils utilisaient des espèces de pelles en plastique pour simuler l'envergure de Wemby, les bras de Wemby. Comment attaquer le cercle face à un joueur qui a une telle envergure ? On a demandé à Jeremy Sochane est-ce qu'il avait eu la vidéo. Il a dit non. Mais il dit, de toute façon, vous avez vu son blog sur Andrew Wiggins. C'est ça déjà, il a marqué les esprit ce qu'il a fait en pré-saison du côté des Warriors, et là il est en train de faire du shooting. Victor Wembanyama, il se fait un petit tour de la ligne à 3 points, voilà, avec des répétitions. C'est assez cool, puisque tu me parlais d'Alperen Şengün, il y a Cedi Osman juste à côté de moi, voilà, un autre Turc de l'NBA, et coach Popovic, il doit être tout au fond, il est même pas dans la salle, il est dans un petit bureau. Donc voilà, c'est quand même ambiance très détente ici au centre d'entraînement des Spurs.
Salut Pierrot, c'est la branlette avec NBA,
Non mais c'est vrai, hein, c'est tranquille.
C'est la kermesse, quoi.
Ah, c'est normal, ils ont une saison à rallonge, 82 matchs, ils ne vont pas se stresser à la veille du début de saison. Pour finir à l'ouest, des équipes ou des joueurs dont on n'a pas parlé, donc est-ce que Zion va enfin démarrer sa carrière ?
Les Pels, pour moi, c'est quasiment un flop, hein. Un futur flop annoncé, parce que Zion, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il est capable de donner. Oui, il y a une belle équipe sur le papier, sauf que malheureusement, je commence à ne plus y croire.
Doncic, qu'est-ce que ça va donner, les Mavs ?
Écoute, j'en sais rien, je crois qu'il va louper le match d'ouverture d'ailleurs, je crois, Lucas, contre Victor Wembanyama. Il a annoncé out. Écoute, j'en sais rien. L'attelage Kyrie Irving, Luka Doncic, pour moi, c'est un grand mystère. Est-ce que j'ai envie de croire que ça peut faire des dégâts. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a aucun des deux qui peut jouer sans ballon, même si
Kyrie. Il n'y en a aucun des deux qui défend.
Après, ils se sont renforcés. Je pense que Grant Williams, c'est bien pour les Mavs, mais je sais pas, jette une pièce en l'air.
On n'attend pas grand-chose. Et Minnesota ? Pour reparler un peu de Rudy.
Moi, j'ai un peu peur. Moi, j'ai un peu peur de Minnesota.
C'est censé être l'avènement d'Anthony Edwards.
Oui, c'est ça. Oui, sauf que lui, il va faire sa saison. Ça, c'est une éminence. Oui. Sauf que... Je ne sais pas si ça va vraiment prendre.
Après, à l'intérieur, c'est, quand tu as Towns, quand tu as Naz Reid, quand tu as Rudy Gobert, c'est quand même énorme. À l'intérieur, tu as Mike Conley qui est un meilleur.
Mais c'est peut-être trop à l'intérieur.
C'est peut-être too much.
C'est presque trop à l'intérieur.
Alors, la partie historique, on va se projeter sur les récompenses de la saison à venir.
En tout cas, c'est logique en tant que premier de la draft.
NBA Defensive Player of the Year is.
Ça m'importe peu.
Oh really?
Alors Wembanyama, rookie de l'année, est-ce que vous y croyez, oui ou non, tout simplement?
Oui.
Oui.
Oui. Ce sera lui ?
Oui.
Oui.
Ok, pourquoi ?
Pourquoi ? Il a montré tellement de choses là, il est incroyable, il a confiance, il fait un petit pont à un mec, il contre un autre, il est en confiance, les gens ont peur de lui. Je l'ai vu contre Miami, il met un panier à un moment et son défenseur le regarde et leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» De toute façon, ce mec...
Il dunk sur Thomas Bryant.
Ouais, sur Thomas Bryant, pourtant c'est quand même un costaud quand même. Ouais. Il dunk sur lui et Thomas Bryant regarde en disant « Mais vous voulez que je fasse quoi ?»
Après,
c'est un phénomène.
Il y a d'autres clients, il y a Scoot Henderson, mais tu nous as parlé de Whitmore, c'est ça ?
Non, il est pas. Ça va être un bon rookie, mais
non, il parlait de Chet Holmgren.
Chet Holmgren qui va être un concurrent.
Oui, Chet Holmgren. Oui, d'accord. Whitmore, tu disais pas ça pour être dans le top des
rookies. Non, mais ça va être. C'est un très bon pick.
Après, pour l'avenir, quoi.
Ouais. Après, Victor, il part avec une longueur d'avance sur les autres. C'est que point de vue médiatique, point de vue marketing.
La hype, ça aide. Hein.
La hype, il a une hype
au moment des votes.
Le moindre geste de Victor
va être commenté, va être magnifié.
Exactement. Parfois, il va faire un lay-up tout simple, mais les Américains vont nous le vendre comme right, it's unbelievable layup by Victor from the three point line. Tu vois, tout va être magnifié autour de Victor Wembanyama.
Non, c'est vrai.
Tout va être magnifié autour de Victor Wembanyama. Donc le tir à 3 points après un crossover, ça va faire le tour du monde. Donc je pense qu'il part avec de l'avance. Alors je dis pas que ça va suffire parce qu'il va produire sur le terrain aussi. Il va faire des choses.
Non, mais en même temps, qu'il a
le seul truc, c'est que du coup aussi, il a pas le droit à l'erreur.
Si, ben alors là, je pense que tu te trompes. Je pense qu'il a un tout petit peu plus le droit à l'erreur que d'autres.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, il peut faire 2-3 matchs où ça se passe mal. Alors bien sûr, à un moment, on va lui tomber dessus. Sauf que effectivement, le fait que on ait parié sur Victor, qu'il y ait une hype aussi importante, les gars, ils veulent pas avoir tort. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont continuer à lui donner confiance. Moi, ce qui m'impressionne vraiment par rapport à Victor Wembanyama, je dis, il va lui falloir un temps d'adaptation, mais j'ai l'impression que le jeu NBA, c'est lui qui l'a inventé. Le mec est incroyable, il lit comme il faut à chaque fois, il a une envergure incroyable, il est toujours dans le bon timing, il fait toujours ce qu'il faut. Moi, la dernière fois, tu m'as dit que j'étais amoureux de lui ou que tu voulais que je l'adopte. Moi, adopter, je suis pas contre.
Mais en pré-saison, son impact défensif est déjà mis en avant. Est-ce qu'il peut aussi être le meilleur défenseur de l'année ?
La réponse est oui.
La réponse est oui. Est-ce qu'il va l'être, d'après toi ?
La réponse est oui, probablement.
Tu penses ?
Je sais pas, moi, quand je le vois faire 5 contre en 20 minutes. Je me dis qu'il peut finir la saison parce que je pense qu'il va jouer plus. Ah il va jouer 28 ou 29 minutes de moyenne.
Il, finir à
3
de moyenne
par match. Et c'est des comptes sur les tirs à 3 points, c'est des comptes sur c'est du contre partout en fait. Et
moi je me pose la question par rapport à ses rebonds quand même.
Il va falloir qu'ils prennent des rebounds un peu.
Il va falloir qu'ils prennent un peu plus de rebonds parce que concrètement, effectivement, les comptes c'est hyper important pour eux. Mais c'est vrai qu'un big man, parce qu'il est considéré comme tel, même s'il joue pas vraiment comme un big man, pour eux c'est compliqué qu'ils prennent pas de rebonds.
Mais je crois qu'il. Enfin, il bénéficie pas, le contraire de bénéficier, il pâtit. Il pâtit du fait de sa capacité à switcher et souvent de défendre sur des gardes extérieurs.
Loin, bien sûr.
Donc il est souvent très loin de la raquette.
Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait pas d'explication. Que statistiquement, les mecs vont regarder en disant mec, prend pas de rebond.
Il va falloir qu'il s'approche des 8 rebonds de moyenne, mais Victor. Et on parlait tout à l'heure, alors les Mavs ont fait un exercice, bon, c'est un exercice qu'on fait pas parce qu'uniquement on joue contre Victor Wembanyama.
On le faisait déjà à mon époque.
Oui, on le faisait déjà pour grandir, pour justement travailler la finition. Mais il y a des équipes qui vont sûrement mettre en place des choses pour écarter Victor Wembanyama du cercle, pour que le chemin soit plus accessible. Donc il va modifier aussi des plans de jeu des équipes. C'est pour ça que défensivement,
qu'il tient les duels en plus.
Donc Jaren Jackson, Evan Mobley, Anthony Davis sont des concurrents à Victor Wembanyama pour être défenseur de l'année. Mais s'il est rookie de l'année, s'il est dans la course pour être défenseur de l'année, il sera All-Star. Duncan Robinson avec les Spurs l'ont été la première année, et surtout avec la hype qu'il a, le vote du public. Victor Wembanyama, il peut être All-Star.
Oui, je vais vous dire de mon œil de non-connaisseur, quand on est allé le voir l'an dernier jouer, dans la salle, pas à la télé, ou aussi à la Carpentier. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est pas tant son apport offensif, c'est cette facilité qu'il a à contrer. C'est incroyable. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est jamais pris dans les feintes. Il a des tellement longs segments qu'un contre, c'est.
En fait, il est très grand, mais il a des déplacements latéraux incroyables, ce qui lui permet de tenir
son défi.
Ce geste
est très dur pour la plupart des basketteurs. Pour lui, c'est très facile.
Mais je t'explique pourquoi. Je te dis, il a des déplacements latéraux qui sont tellement bons qu'il se retrouve toujours entre le ballon et le panier, d'accord. Et à partir de là, avec ses grands bras, son timing et sa détente, parce qu'il il jump quand même.
C'est difficile de le passer.
C'est impossible de passer.
Et puis en plus, il a un énorme avantage, c'est que dans sa voiture, il fait les 100 sans sortir.
Il fait le tour dans le mauvais sens en plus.
Et ça compte au moment des récompenses, parce qu'aux États-Unis ça blague pas avec la voiture.
Exactement, mon grand.
Est-ce qu'il peut être All-Star dès sa première saison ?
Oui, moi je pense.
Oui. Vote du public.
Allez, terminé. Bon, qui est votre MVP ? Là, sur la ligne de départ, qui sera MVP ?
Moi j'hésite entre deux, Jokic et Giannis. C'est assez simple, c'est pas très compliqué de prévoir sur ces deux-là. Alors Jokic parce que c'est Jokic, tout simplement, j'ai même pas besoin d'explication. Giannis parce que maintenant il est accompagné de Lillard, parce qu'il va avoir plus d'espace pour jouer, il y a un joueur qui va pouvoir écarter le jeu, il aura plus d'espace dans la raquette. Il va pour moi être en lice aussi pour être meilleur défenseur, parce que là aussi ils ont perdu un petit peu sur le poste de meneur de défense, donc il va être encore plus important défensivement, il va prendre plus de volume dans le jeu. Donc moi je mettrais une petite pièce sur Giannis.
Écoute, oui, ils sont des candidats qui se tiennent. Je me dis peut-être qu'en volume de points, Giannis va peut-être perdre, vu que Damien Lillard va mettre beaucoup plus de pain de temps que Jrue Holiday. Je vais choisir un troisième larron pour MVP. Je crois que c'est l'heure de Jason Tatum. Pour être MVP. L'année dernière, sa première saison.
On se prend pas beaucoup avec
Non, je pense que ça sera un des trois, Tatum.
C'est quand même le plus élégant des trois.
C'est le plus beau à avoir joué ?
Ouais, je trouve. Ouais.
Non, c'est Jokic le plus élégant. Mais après, c'est une opinion
Jokic,
de.
Il est impressionnant parce qu'il est très facile, mais. Bon, il est un peu lourdeau.
C'est vrai qu'il est smooth.
L'autre, il est beau. Attends,
c'est vrai qu'il est élégant quand même, dans ses dribbles, dans ses tirs, tout ça.
Après, une gravure de mode, le mec. Non, mais...
Oui, mais beau et élégant, c'est pas pareil. Hein.
Si, parce que dans ses moves et tout, moi, je le trouve fantastique.
C'est un beau joueur. Après, Booker, Durant, t'aurais pu être dans la course, mais là aussi, je pense que les deux vont se manger le museau l'un sur l'autre.
Le juge de paix, ce sera Bill. justement, exactement, par rapport à ces deux-là.
Et Luka Doncic aurait pu être prétendant, mais je ne suis pas sûr que l'UMass fasse une grande saison collective, donc ça va lui coûter des points sur le titre de MVP.
Impossible que LeBron James, pour sa 20e saison, si les Lakers font un truc dingue,
ouais, je sais pas si
récupère le gros lot.
Le problème, c'est que les garçons qu'on a cités collectivement vont être très hauts, et en termes de chiffres, vont être très hauts. Je ne sais pas si LeBron peut... Alors s'il le fait, gros, c'est bravo, moi je m'agenouille devant lui. Hein. S'il fait une saison à plus de 30 pions de moyenne, 8 passes...
On peut le enregistrer, ce qu'il vient de dire, s'il vous plaît, ce serait important de le replacer.
Je sais pas, là, ça me paraît, surtout si Heidi est en bonne santé, je vois pas LeBron faire au niveau des stats.
Mais c'est plus à lui de faire autant de stats, attends, c'est Heidi, tu as ouais. raison, c'est lui la clé des Lakers.
Bon, très bien. Pas d'autres candidats pour le MVP?
Non, pourquoi tu...
Alors, est-ce qu'il y a d'autres récompenses que vous avez bossées? MIP,
c'est Michael Bridges, moi.
Michael Bridges
des Nets.
Ok.
Bon voilà, parce que
moi, autre joueur des Nets.
Toi c'est Ben Simmons, oui.
Ouais. Des Nets, parce que il part de tellement loin que je me dis que le mec il est à 12 points, 12 rebonds ou 12 passes, peu importe.
Va falloir mettre des points quand même, Ben Simmons.
Ça. 12 points, 12 passes, je pense qu'il est MIP.
Jordan Poole aussi a peut-être un coup à jouer sur le MIP. Ah bah, s'il a 29 points de moyenne, la progression elle est énorme quand même. Mmh, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le 6e homme. T'as fait le 6e homme toi?
6e homme, j'ai fait. Ouais. Quickly. Moi j'ai choisi Quickly.
Ah, Quickly à New York.
Ouais. Parce que il va avoir le même nombre de ballons qu'avant. Et c'est l'option numéro 1 en sortant du banc. 6e homme, Russell Westbrook.
Il va
peut-être être starter.
Voilà, ça dépend. Ça dépend combien de matchs il va jouer sur le banc. Mais Quickly pour moi, c'est vraiment le typique joueur de banc qui va arriver, qui va mettre ses points, qui a de l'énergie et qui n'a pas peur de prendre des...
Est-ce qu'il y a un autre Français que Victor qui peut avoir son mot à dire au moins
Rudy Gobert, le défenseur de l'année. Pourquoi pas, ça reste un bon défenseur, hein, Rudy. Donc,
ça dépend la saison de son équipe aussi.
Exactement, et pour le 6e homme, moi je vais mettre Chris Paul, tiens, pour le petit clin d'œil.
Alors Chris Paul ne sera pas starter?
Non.
D'accord.
Et c'est la première fois de sa carrière qu'il ne sera pas starter.
Ok, il va bien le vivre. Rassure-moi,
à son âge, il devrait. Oui. J'espère pour lui, parce que sinon.
Alors, il arrive au Rio, je pense qu'il va bien le vivre. Par contre, s'il a Boulazac et qu'il sort du banc, peut-être que là, il va vivre moins bien.
Surtout, quand même, après toutes ses tentatives, être toujours dans une équipe compétitive, bon, il va pas se plaindre non plus, quand même.
Non.
Parce que finir.
Après, il le mérite, quand même, c'est un bon joueur.
Je
sais pas si c'est la fin, mais finir au Warriors, c'est quand même exceptionnel.
Bah, alors, honnêtement, ça sent un peu la fin, quand même.
Ça sent un peu la fin, oui, d'accord. Est-ce qu'on a retrouvé Arnaud Valadon? Il est là? Non, il va arriver. Alors, je vous propose.
Moi, j'ai le coach de l'année.
Les coachs de l'année, exactement, bravo.
Moi, j'ai choisi Frank Vogel. Oui, Frank Vogel, parce que justement, ben on parlait des Suns, moi je crois aux Suns.
Moi, je parle plus, il m'a dit Vogel.
Ah, enfin, ça y est, tu te réveilles au bout de 40 minutes de podcast.
Donc je choisis Frank Vogel parce qu'il a gagné un titre déjà, parce qu'il va devoir manager une équipe compliquée, on l'a dit, parce qu'il y a quand même des gros égos à manager, et que si les Suns font une bonne saison, ben, je pense qu'on parlera de lui forcément.
Stephen?
Moi je vais prendre Marc Degnaud, le coach OKC, coach de l'année, parce que j'aime bien OKC.
C'est qui lui, il sort d'où? C'est quoi son parcours?
Le parcours de quoi? De
Marc Degnaud,
il était là et derrière déjà.
Oui, mais vas-y,
c'est
moi je...
C'est le frère de Grégoire Degnaud.
Non, mais c'est pas du tout un nom qui je percute rien du tout quand tu me dis Marc Degnaud. Ah bah, toi non plus apparemment, puisque tu fais une petite recherche sur ton Mac. Non, mais je dis pas ça en rigolant, pour moi c'est pas un mec très connu.
Mais c'est un jeune coach, par contre c'est assez jeune coach.
Il était assistant au KC pendant longtemps.
C'est sa première fois en tant que coach principal, non?
Non, c'est sa quatrième saison. Oui, c'est sa première expérience, c'est sa quatrième saison. Il était assistant de Florida, des Gators, assistant de KC.
Alors que pendant ce temps-là, Arnaud Valadon vient de croiser et de discuter avec le plus ancien, Greg Popovich. Arnaud?
Absolument, Pop qui s'est donc présenté devant la presse. Bon, je lui ai posé une question, il m'a fait une réponse
américaine,
on va dire un peu vague. En fait, je lui demandais si le début de saison de Victor ressemblait ou pas du tout à celui de Tim Duncan en 97, à savoir avec les attentes, la hype et tout. Il m'a dit bon, que chaque joueur et chaque situation est différente. Et puis surtout, par rapport à ce que tu me demandais sur les objectifs, il veut très prudent, il veut que ce qui se passe à l'entraînement se retrouve en match, remettre ces ingrédients-là parce que les Spurs sortent d'une saison très difficile, donc
du bon, politiquement correct, enfin rien quoi, en gros.
Oui, voilà.
Il n'y a pas de pote.
On a bien fait t'envoyer à San Antonio. Arnaud,
je peux revenir là.
Avant que tu repartes,
demande-lui à Pop si alors il a initié Boris.
Passe-le-nous, Pop, s'il te plaît.
Passe-le-nous, tiens, vas-y.
Ça ira plus vite. Là.
Hi, Pop, Steve Brown.
Pas si loin que ça.
From Squeak.
From Squeak. You know, Squeak. Demande-lui si il compte initier, même si Victor est un peu jeune, il a pas l'âge de boire de l'alcool un peu, mais si quand il aura 21 ans, au pinard un petit peu.
Peut-être qu'il connaît déjà Victor. Hein.
Peut-être, ouais.
Mais je ne suis pas sûr. C'est
celui qui aime beaucoup les fruits de mer. Victor Wembanyama est très friand.
C'est fini avec Greg Popovich.
Merci Arnaud, tu as bien fait d'y aller, vraiment.
Bah, vous parlez de vin, j'ai le droit
juste
de parler
pour
de
nous,
nourriture.
Pour toujours qu'on profite quand même de cette séquence média, c'est quoi le programme, la suite du programme là, pour toi à San Antonio?
Écoute, on va aller voir différents artistes, différents entrepreneurs, notamment un patron qui a inventé, enfin qui a créé la boisson Wemby, Wemby
Water.
Ah là
Water, là, tu parles de ton programme aujourd'hui. Non, moi je te parlais du programme des Spurs. Là. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée?
Bon, écoute, ça va être assez tranquille pour les Spurs. Ils vont avoir un shooting, enfin un entraînement demain. Là, après, chacun peut faire aussi un peu de travail individuel. Kiné, voilà, c'est un peu, voilà, c'est vraiment à l'américaine avec cette séance. Donc, c'est un programme un peu léger, si tu veux.
Avant de repartir pour peut-être d'autres interviews, est-ce que tu veux nous donner rapidement ton MVP, ton coach de l'année, ton rookie de l'année, Arnaud?
Oula, j'étais pas prêt.
T'étais pas prêt.
Ouais, non, Mark Degnaud du Thunder avec Chet Holmgren qui va revenir, enfin qui va venir sa saison rookie, l'alliage Guidi, Yamisic qui a joué un petit peu en pré-saison, Shai Gilgeous-Alexander, tout ça. Donc pour vous, je pense que le Thunder peut faire ça. Et au niveau du MVP, allez, un Jason Tatum.
Alors c'est le Basket Time spécial début de saison NBA. Est-ce qu'on te garde pour le quiz, Arnaud?
Non, je vais filer.
Ah,
je suis désolé.
Alors, ça va être un tête-à-tête entre Stephen Brun et Fred Weiss. Ben, c'est parti. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
T'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Alors là, c'est intéressant. On va revenir sur...
Je comprends pour Julien Lepers.
Ah oui. Ah ouais.
Et alors là, je vous propose quelque chose.
Guys, come on, help me. What are we doing here?
Ah oui. Oh là 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 là. Ça, c'est beau, ça. Bien joué.
Sacré phénomène, Julien Lepers, quand même.
Nouveau jingle.
Incroyable.
Nouveau jingle, bravo.
Bon, alors, Steve et Fred,
oui,
vous êtes
bonjour.
Face à face, donc. J'avais préparé pour trois, donc on va s'adapter parce qu'il y a des...
Parce que quand il y en a trois pour trois, il y en a pour deux.
Bah écoute, oui, je compte. Attends, là, c'est bon.
Hein?
Ok, ça c'était clair.
Ah, j'ai vérifié un truc.
C'est
parce
intéressant
que
ou pas j'ai...
Ouais, c'est très intéressant. C'est la dernière question pour marquer plusieurs points. Ah. En fait, je vous posais.
Fred a écrit des petits noms sur un papier.
Je vous posais une question, pas, chacun à tour de rôle. Et donc, comme vous êtes trois, ça pouvait être un multiple de trois, mais c'est bien un multiple de deux. Tout va bien.
Très bien.
Alors, première question, nous partons de San Antonio. Nous allons faire une boucle spatio-temporelle et revenir à la fin à San Antonio. Vous êtes prêts?
Oui.
Très bien. Quel joueur slovène a été champion deux fois avec les Spurs? Beno Udrih. Premier point pour Stephen.
Tu voulais dire qui?
Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai
Nestorovic. Mais il n'est pas slovène.
Il n'est pas slovène?
Non. Nestorovic, il est slovène?
Je sais pas, il me semblait que Nestorovic était...
La question était deux fois champion avec les Spurs en 2005 et 2007. Donc de toute façon, la bonne réponse était Beno Udrih. Bah c'est dommage parce que tu aurais pu avoir le point, mais là non, c'est l'autre joueur slovène.
Champion NBA en 2005 seulement.
Voilà. Alors, donc 2005 et 2007, c'était le backup de Tipeee qui a fait une longue carrière à NBA finalement. Hein. Il est passé par les Kings, les Bucks, le Magic, les Grizzlies, le Heat, les Pistons. Il a fini aux Zalgiris Kaunas.
Ouais, Beno.
Voilà, il n'a pas réussi à prendre la place de Tipeee. Alors 2007, donc, on prend cette finale. 2007, donc, qui est le coach de Cleveland? Ouais. En 2007.
Tyronn Lue?
Non.
Ah, bah, comme il s'appelle, Mike Brown.
Mike Brown, il s'appelle Mike Brown, absolument. Ça fait 2-0, Fred, c'est bon, tout va bien?
Oui, 2007, non, j'étais pas là, moi.
Et bien voilà, c'est comme ça, c'est une boucle. Donc ça peut tomber sur n'importe quoi, n'importe
donc,
quel moment.
Un mec qui s'appelle Mike Brown.
Mike Brown, qui est coach de quelle équipe aujourd'hui?
Ah, coach qui met des points en attaque, Cleveland.
Non.
Non,
ah, non,
non.
Une coach
non,
qui... non. Ah non, c'est une des meilleures attaques de la
Kings,
ligue.
Les Kings, les Kings.
Bravo.
Ah oui, putain.
Bravo Fred. Tu vois, en fait, il suffit que tu démarres. Parce que tu
coach de l'année dernière d'ailleurs. Hein,
t'étais là, hop, t'avais pas envie d'y aller, mais t'avais l'impression que Steve te dominait. Et hop, dès que t'as un bon ballon, hop, tu dunk et c'est bon. Ça fait 2-1 pour Fred. Pour
je sais pas pourquoi sur la question tu t'es levé, tu faisais des mecs qui étaient à 3 points.
Je sais pas, tu m'as dit plein de points. Donc, j'ai mimé un mec qui shoot. Donc, alors, nous sommes à Sacramento, aux Kings.
Oui.
À part Sabonis, citez-moi un joueur européen aux Kings.
Stojakovic.
Non, actuellement.
Ah, pardon.
Un joueur européen de l'effectif des Kings. Actuellement, il y en a deux. Il y en a deux et c'est très facile.
Sacha Vezenkov.
Voilà, effectivement, Sacha Vezenkov. Et l'autre étant Alex Len, qui joue pour l'Ukraine. Voilà, donc ça fait un troisième point pour
Vezenkov, j'ai un peu honte.
T'as un peu honte de Vezenkov. Eh bien, alors, on continue sur Vezenkov. Oui. Bon, alors, malheureusement pour toi, la question ne porte pas sur Vezenkov.
On continue avec Vezenkov, mais ce n'est pas sur Vezenkov. Okay.
Vezenkov, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été drafté en 2017 en 57e position par les Nets. OK.
Dans quelle année ?
En 2017. Qui est drafté en numéro 1 cette année-là ?
2017.
Ouais, 2017.
6 ans.
Wow.
On en a parlé la semaine dernière, puisque c'était sur les numéros 1 de la draft, le quiz. Alors, vous en souvenez pas. Donc, on en a parlé dans les mecs qui sont des déceptions ou demi-déceptions.
Mark
Helfels, exceptionnel, Stephen, 4 à 1. C'est bon ? On continue ? Oui. On enchaîne ?
Non, c'est quoi, Mark Helfels ?
Ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse.
Oui, mais la boucle, on part de qui ? De Mark Helfels ?
Oui, exactement, il joue où, Mark Helfels ?
Orlando.
C'est là, c'est là, c'est pour Fred. 4
question,
à 2.
La question, elle est venue de comme ça, là. Sur...
Ah, tiens, nous sommes à Orlando. Qui parle dans cet extrait ?
He's big, he's powerful, he's mean.
Joachim Noah?
Non.
He gets his legs up.
Vucevic?
Non.
He can dribble sometimes.
Bol Bol?
Shaq.
Le Shaq, le jeune, le tout jeune Shaq.
Ouais, j'ai pas reconnu sa voix.
Eh ben, c'est pour ça que je voulais diffuser. C'est le jeune Shaq, donc drafté numéro 1 par Orlando. Et donc, ça fait 5 à 2. Et voici donc la séquence où vous pouviez marquer plusieurs points. Donc, je pensais qu'Arnaud Valadon serait là. J'ai donc fait des questions par 3. Hein, par, une, la logique, c'est des trios à chaque fois, mais tant pis. Tant pis, il n'y aura pas de logique dans ce quiz.
C'est intéressant quand même.
C'est plus qu'intéressant. Non, mais c'est plus qu'intéressant, c'est exceptionnel. En 93,
oui.
D'accord, le Shaq fait le All-Star Game alors qu'il est rookie.
Oui.
Et ben, vous allez retrouver un autre joueur All-Star rookie en fonction de l'année que je vais vous donner. Je vous donne une année et vous me donnez un mec qui est rookie et qui est All-Star cette année-là. C'est pas facile. Hein.
All-Star, peu importe, 5 majeurs ou All-Star.
Il est All-Star, ouais, voilà, il est All-Star, c'est tout.
Ouais.
C'est bon. Alors, j'avais préparé donc des trucs à peu près logiques,
oui, oui.
Mais du coup, il n'y aura aucune logique.
Ah, d'accord.
On démarre avec Fred. Je vous donne la saison. Hein. 84-85. Il est rookie et All-Star. Et même parfois, dans ce quiz, il y a plusieurs réponses possibles.
Bon, si.
Non. Alors 84-85, c'était le plus facile.
C'est Michael, non ?
Michael Jordan.
Ah oui.
Et, et ton joueur préféré, Hakeem Olajuwon.
Hakeem Olajuwon.
Donc
t'as... C'est vraiment très facile.
Il y avait deux options.
Oui,
deux options, je vous annonce tout de suite, les autres sont plus difficiles. Quoi.
Mais après, j'avoue, je raisonne jamais en 84-85.
Eh oui,
faut dire
c'est
84
dur.
Ou 85.
Oui, fait. Mais si je vous donne la. Bah, comme ils sont draftés en 84, mais bah, ça se finit en 85, hein. Il faut dire les deux.
Ah oui, parce que le star
sinon,
en
c'est trop compliqué.
Mais pour moi, chercher un mec drafté en 85, ouais. Et je comprenais pas.
C'est hein. Là ton erreur. 85-86, Stephen.
Donc drafté en 85 et All-Star en 86.
Ouais, c'est ça. C'est ça la question. je suis en vrai sadique, hein, parce que c'est très
drafté
dur.
En 85, Patrick Ewing.
Excellent, bravo, il est bon, il est très bon, mais tu vois pourquoi pourquoi je fais des questions dures, c'est pour prouver à tous les auditeurs de Basket
qu'on
Time qu'ils ont raison de podcaster tous les mardis sur rmc.fr.
Patoche et Wing.
Patoche et Wing.
Il n'y en a qu'un.
On repasse à Fred, 91-92. Il est drafté en 91, il est All-Star en 92.
Dikembe Mutombo.
Excellent, bravo à toi.
Il n'y en avait qu'un aussi.
Il y en avait qu'un.
Ah ouais.
Steve, 2002-2003. 2002-2003, c'est plus proche,
oui, oui.
Mais c'est déjà il y a 20 ans. C'est déjà il y a 20 ans, c'est incroyable.
2002-2003.
Ouais. C'est une période de la NBA où, je sais pas, il n'y a pas énormément de mégastars qui sortent. Hein.
Blake Griffin ?
Non.
Yao Ming.
C'était Yao Ming, ah. Mais je ne te donne pas le point. Puisque
ah, dommage. Était pour une fois, j'aurais pu voler un point.
Alors, 2010-2011, Fred. C'est pas si dur. Parce qu'il y en a en fait très peu.
Drafté en 2010.
Ces dernières années. Si t'es malin, vicieux, si t'es un peu coquin, tu peux le trouver, mais très facilement.
Derrick Rose ?
Mais non, mais c'est Blake Griffin.
Blake Griffin. Ah, Griffin.
on repasse à Steve. Team Duncan. Bon, hop, on enlève. 97-98, t'aurais trouvé.
Team Duncan, oui.
Ouais. Alors, tant pis pour toi. Là, on va passer vraiment aux anciens. C'est 3 décennies. On va remonter le temps.
Hein
3 décennies. J'avais 3 questions. Il y avait Arnaud Valadon. Bah, tant pis, t'en prends 2. On commence par Stephen. 79-80. Drafté en 79. All-Star en 1980.
Tu peux pas me donner des initiales au moins.
Non, parce que c'est trouvable.
Drafté en
79. Il y a même quelqu'un qui m'a dit en régie, c'est facile.
Jerry West ?
Non. Je te pose la question parce qu'il y avait 2 noms à trouver. Donc tu peux
Larry Bird ?
Larry Bird, c'est bon. et l'autre étant Magic Johnson.
Mais Magic, ah oui. Bien sûr.
Alors, je vous fais un point sur le score.
Je suis un cochon.
Est-ce que ça peut remonter? Ouais, parce qu'il n'y a plus que deux points d'écart. Il y a 6-4 pour Steve. Steve, une décennie avant, 69-70.
Wow, c'est dur.
Alors, en régie, ils ont déjà trouvé. Hein.
60... Ah, je sais qui c'est.
Oui.
C'est Lou Alcindor.
Excellent. Et quand même, je vous ai pas sorti des noms introuvables. Oui, oui. Hein. Il y en avait des noms introuvables. Hein. Je vous ai...
bah, mais la décennie d'avant, par contre...
Bah, la décennie d'avant, c'est pour toi.
59-60.
Fred.
Jerry West.
Non.
Pistol Pete.
Will Chamberlain.
Will Chamberlain. Putain, c'est si loin déjà.
On arrête ou on continue?
Pourquoi, il y en a encore?
Bah, il y en a encore trois, mais là, ça devient long, là, non?
49-50.
Non. Non, on revient dans des années plus récentes. Mais attends, est-ce que tu peux encore gagner? Tu peux encore gagner, donc on le fait. Ok. On en est à qui, là, Steve?
Oui.
Bon, si t'es chou, Fred pourra répondre pour essayer de gagner le quiz.
Je suis toujours chou, moi.
94-95. Ouais.
94-95.
Ouais. Tu l'as ou pas?
94.
Draft en 95. Thorpe, pardon, et All-Star en 95.
Je pense que j'ai.
Tu penses que t'as. Allez.
Pas sûr, finalement, mais je...
Le Shaq, non?
Non, c'est pas le Shaq. Tu l'as, toi?
Je pense. J'aurais dit Grant Hill, mais...
Excellent, je te donne le point, bravo. 81-82.
Pourquoi tu donnes le point? C'est pas sa question.
J'ai dit que je lui laissais la possibilité pour qu'il puisse encore gagner le quiz. Donc c'est bon.
Non, on change les règles!
Oui, on change les règles. 7-5.
Alors là, je vais tenter, mais...
Alors, 81-82.
Je suis désolé, je vais recommencer avec mon James Worthy.
Non, c'était Isaiah Thomas. Il y avait aussi Buck Williams, mais bon, moins connu. Et enfin, un dernier, 89-90, juste pour la forme.
89-90.
Eh oui, réfléchis, c'est une boucle temporelle, spatio-temporelle.
Ouais, 89-90, là c'est David Robinson.
Excellent, bravo Steve, tu as encore gagné le quiz, à la semaine prochaine.
Salut Pierre.
RMC Basket Time.